Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la conférence de l'ISY sur la présentation du résultat du premier trimestre 2015. Je laisse à présent la parole à Monsieur Emmanuel Vielard. Monsieur, c'est à vous.
Merci, bienvenue à tous. Donc, il est 18h30 et nous allons donc commencer cette conférence call sur les résultats, tout au moins c'est les chiffres d'activité du premier trimestre 2015. Il doit nous manquer quelques participants, donc je vais essayer de faire durer un tout petit peu le plaisir pour qu'ils puissent avoir le temps de se connecter. Néanmoins, je pense que vous avez reçu tous votre les documents présentant l'activité et que vous êtes connectés sur le site où je vais pouvoir dérouler la présentation. Si vous ne l'êtes pas, vous devez l'avoir sous les yeux. Nous abordons aujourd'hui les chiffres du premier trimestre 2015. Les chiffres présentent tout d'abord un chiffre d'affaires record à 382 millions d'euros, donc étant bien entendu le record puisqu'il se compare 311 millions sur le premier trimestre de 2014. Et si on regarde le T3 ou le T4 de 2014, on était plutôt dans les zones de 340-350 millions. Donc là, on est monté sur un niveau supérieur. Donc la croissance est très forte par rapport au même trimestre de l'année précédente puisqu'elle est de 23%. Si on compare à 22 ou 26% dans le T3 ou le T4, donc vous voyez qu'on est sur les mêmes rythmes de croissance. On bénéficie de deux effets, qui est l'intégration tout d'abord de Manoir, et deuxième effet très positif qui est l'intégration également du taux du dollar qui joue favorablement sur la conversion de tout le niveau d'activité réalisé dans cette devise et dans la partie aéronautique qui est significatif. En termes de croissance organique, nous affichons une croissance organique de 4,7. Alors 4,7 c'est mieux que les chiffres du T2 ou du T3 de 2014. Ça correspond à un bon niveau de croissance organique pour le groupe. On considère que lorsqu'on est à 5% de croissance organique, on est dans un niveau très correct. Et en fait, on voit que les trois marchés sur lesquels l'ISY évolue sont assez cohérents en termes de dynamique. Alors, on commence bien entendu par l'activité aéronautique, où je ne vais pas vous apprendre quelque chose, et c'est pas un scoop de dire que le contexte de marché est toujours solide. On a contexte client, vous voyez que les commandes prises par nos grands clients avionneurs, en particulier Boeing et Airbus, et même s'il est inférieur au rythme de livraison, il est quand même significatif. Il y a une bonne tenue du carnet. Les monocouloirs ainsi que les longs courriers sont également des éléments porteurs. Globalement, c'est tout le segment des constructeurs d'avions de puce en place qui reste très solide. Et comme c'est notre principal marché, on bénéficie bien entendu de ce contexte de marché. Si on regarde les autres segments qui sont plus petits, que ce soit le Regional Jet, Embraer, on va dire, présente des facteurs de solidité, tandis que Bombardier est plutôt fragile, ou en tout cas en attente de lancement du C-Series. Une carnet de commandes chez eux relativement faible, donc un élément d'incertitude de ce côté-là. Le segment hélicoptère est un segment qui est affecté. Bon, vous savez que le marché hélicoptère, surtout sur les gros porteurs, c'est un marché qui est entièrement tourné sur l'activité pétrolière, et là, de ce côté-là, la baisse du pétrole n'est pas un élément favorable. Donc l'activité hélicoptère pour nous est en baisse. Bon, il y a eu des bonnes annonces récentes qui devraient pouvoir dans la durée quand même affermir les marchés principalement chez Airbus Hélicoptère. Mais là, à court terme, aujourd'hui, c'est un niveau d'activité qui est plutôt bas. Et puis nous avons un segment également qui nous affecte, qui est la distribution aux États-Unis. On a du mal à y voir clair. On a plutôt des bons contacts avec nos clients qui reconnaissent un niveau de taux de service qui s'améliore. Donc il n'y a aucune raison que perdre des parts de marché. Au contraire, notre objectif est plutôt d'en gagner. Mais toujours est-il qu'à court terme, on a une activité qui est plutôt faible du côté de la distribution aux États-Unis. Alors pour nous, ça se traduit dans nos deux gros secteurs par une bonne tenue de l'activité fixation qui continue à progresser également en Europe, hein, quand on se compare par rapport à l'an dernier. Là-dessus, il faut retenir, c'est que, bien entendu, Airbus a un bon niveau d'activité. Également, le segment qui est destiné aux motoristes, qui est principalement servi par les usines de Villefranche, Izmir, est de bonne tenue. Donc, bonne activité moteur qui servent également à motoriser les avions de plus de 100 places. Hein. Donc, vous retrouvez la même chose. Aux États-Unis, un rythme de croissance moindre. Et là, c'est la distribution, parce que Boeing reste ferme. Nous avons de ce côté-là plutôt un niveau d'activité aux US qui représente en croissance interne que 3%. Alors qu'on aurait pu attendre un rythme de croissance supérieur à l'Europe. Donc bonne tenue de l'Europe, un élément de soutien des États-Unis, mais pas au rythme attendu. Du côté la division des composants de structure, bon niveau d'activité, bonne croissance interne, plus 9%. Là, on a beaucoup de pression de la part des clients sur le lancement de nouveaux produits. Je vous rappelle qu'on est très exposé au 350, avec un rythme de livraison qui est exactement collé par rapport aux cadences de production, donc qui est en hausse, il n'y a pas d'effet stock. Et par ailleurs, le développement, moteur LEAP, il faut retenir, et également, dans une moindre mesure, le G9X. Dans ce segment-là, nous avons nombreux défis techniques, qui est la mise au point des nouveaux produits. Ça, c'est principalement chez Creuset et c'est principalement dédié à l'activité moteur. Du côté des défis opérationnels, c'est plutôt chez Manoir que ça se passe, où là, il faut noter, vous avez vu dans le rapport, de nombreuses pannes d'équipements industriels. Alors, c'est pas une découverte, hein, c'est pas une surprise. On sait qu'on a des équipements industriels chez Manoir qui sont pas forcément... Les derniers cris, la société a été sous-investie par l'actionnaire précédent, et là il y a une inertie forte qui sont liées à la taille des équipements industriels qu'on doit mettre en œuvre pour pouvoir améliorer l'activité. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que nous servons nos clients dans de bonnes conditions, qu'on améliore le taux de service avec nos principaux clients, particulièrement du côté, encore une fois, des moteurs. On a un certain nombre d'indicateurs avancés qui nous disent, qui nous laissent penser qu'on est en train de résoudre un certain nombre de sujets. Par contre, sur le premier trimestre, on était encore dans le dur sur ces éléments-là. Du côté des composants de structure, même si on augmente l'activité, on subit la pression de nos clients pour l'augmenter encore plus. Alors maintenant, on va changer de division, puisqu'on passe à la division auto, et puis ensuite on reviendra sur les éléments de perspective. Dans la division auto, vous l'avez vu, les éléments de marché sont favorables. Le marché européen est bien orienté, plus 4, donc qui correspond exactement à notre croissance interne organique de 4,2. Là-dessus, il faut retenir que nous avons une activité auprès de nos principaux clients constructeurs qui est exactement comparable au rythme de production. Alors la production chez nos clients a été plutôt moins dynamique que leur vente, ça veut dire qu'ils ont diminué leur stock. Par contre, on a une très bonne activité, c'est plutôt de plus. Nous avons une très bonne activité avec nos grands clients équipementiers. Donc dans le segment des équipementiers, donc sur les special security mechanical components, nous avons là une très bonne dynamique, bonne activité auprès de ce segment. Il faut retenir que la prise de commande est soutenue auprès de nos clients, que nous avons eu une hausse forte avec un mix de produits particulièrement forte dans le segment donc des fixations vissées qui nécessite des traitements thermiques. Et nous avons eu l'apparition de goulots d'étranglement sur ce segment-là et qui a pénalisé non seulement la production mais également notre performance et notre rentabilité. Donc on est en train de trouver des solutions pour augmenter la sous-traitance de traitement thermique pour pouvoir déculoter ces éléments-là. Nous espérons pouvoir résoudre progressivement ces sujets de sorte d'améliorer progressivement notre volume d'activité dans le segment des fixations vissées. Par contre, dans le segment des fixations clippées ou dans le segment des composants mécaniques de sécurité, là par contre, il n'y a aucune dérive et plutôt un fonctionnement qui est favorable. Donc nous avons des perspectives encourageantes parce que la visibilité sur le secteur est bonne jusqu'à la fin de l'année. Vous avez vu les annonces de hausse de cadence sur le mois de mai, le mois de juin et pendant l'été. Troisième secteur pour l'ISI, le secteur du médical, donc plus petite activité hein, pour nous. Là, on a une stabilité. Alors, on aurait pu livrer davantage, on a un petit peu de retard. Dans l'usine de Caen, qui est le principal moteur de cette activité, nous avons deux gros éléments, deux gros équipements industriels qui ont été investis l'an dernier et qui ont eu des difficultés de mise en production, de qualification de la part de nos clients, et également quelques soucis techniques. Donc ça nous a affecté dans notre capacité de production, et on n'a pas pu sortir le volume attendu, donc on aurait pu faire mieux, et ça veut dire que aujourd'hui on a une réserve de livraison pour le deuxième trimestre, où on a une bonne visibilité, donc on devrait pouvoir afficher une croissance un peu plus décente que la stabilité que nous avons affichée sur ce premier trimestre. Donc rien d'inquiétant, c'est une difficulté passagère. Alors, dans la partie perspective, le leitmotiv, c'est que nous maintenons nos objectifs. Ça, c'est pour le panorama général, et on y reviendra. Alors dans l'aéronautique, je vous l'ai dit, bon, la visibilité est bonne sur le marché dans la durée. Nous avons toujours cette pression sur le lancement des nouveaux programmes et l'augmentation des cadences, ce que nous avons appelé la phase d'industrialisation. Nous devons augmenter d'une manière forte l'output, donc la sortie en production, et pour cela on est toujours dans la mise au point des produits parce que il y a eu un retard dans les définitions exactes des pièces attendues par les constructeurs, notamment sur le programme LEAP, le moteur LEAP, et nous sommes toujours en cours, à ce jour où je vous parle, en train de mettre au point les produits avec des produits qui sont encore pas stabilisés. Il faut noter également, dans le segment fasteneurs, donc le plus important, à court terme, on sent un certain relâchement des commandes, qui, je vous rappelle, c'est une activité qui est quand même soumise à des variations liées au stock, et que cette visibilité sur l'activité fasteneurs est à l'heure où je vous parle relativement faible en termes de demande. Donc nous avons des appels qui sont relativement faibles et qui ne correspondent pas tout à fait aux commandes, donc nous devons avoir des grands clients, notamment Airbus, qui doivent déstocker. Comme je l'ai dit, l'industrialisation reste toujours compliquée sur le moteur LEAP. Hein. Sur Manoir, nous avons bon contrôle des opérations, bonne tenue, bonne prise en main des équipes, renforcement des équipes. Et par contre, je vous l'ai dit, les pas de machine vont encore se poursuivre vraisemblablement au cours du deuxième trimestre pour faire l'objet soit d'entrées en service d'investissements lourds, mais qui arriveront plutôt sur la fin de l'année, soit de réparations progressives et d'opérations de maintenance lourde de nos équipements. Les investissements sont en cours. Et la construction de la nouvelle usine de Parthenay dédiée aux OGV se déroule conformément au planning. On n'a pas de retard à ce stade. Voilà, dans le domaine, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas d'inquiétude, malgré ce que je vous ai dit sur l'activité fixation, même si la visibilité à court terme est relativement faible, l'activité reste toujours d'un excellent niveau, et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est un excellent fonctionnement, et donc on n'a pas de déviation de ce côté-là. Du côté de l'ICI Automotive, on bénéficie de marchés bien orientés, on a un changement de comportement là récent de nos clients principaux, à commencer par les grands équipementiers, où on arrive à trouver maintenant des partenariats, et notamment on a pu pu nouer un partenariat avec notre principal client dans le domaine du freinage pour renforcer nos livraisons et augmenter d'une manière significative les volumes qui bénéficient en premier lieu à notre usine de Mélisée. Les goulots d'étranglement créés par l'effet mix et avec un fort volume sont en cours de résorption, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais partiel. Donc on aura encore un effet de traîne. Et je vous confirme, donc, dans le maintien des objectifs, l'amélioration de la rentabilité, mais nous aurons du mal à atteindre le niveau espéré sur l'ensemble de l'année. On peut rattraper une partie du retard qui a été pris, mais je pense pas en totalité. Voilà sur la partie auto. Sur la partie médicale, je vous l'ai dit, on a pour l'instant une relative stabilité avec une base de comparaison qui a été élevée sur le terrain mais devrait augmenter en global sur l'exercice. Donc la croissance est toujours d'actualité et la maturité de production de nouveaux produits contribueront positivement pour le reste de 2015. Donc, je vous l'ai dit sur cette partie perspective, nous maintenons nos objectifs, je vous les rappelle. Nos objectifs pour cette année, c'est d'améliorer la marge en valeur absolue, avec l'effet dilutif qu'il faut prendre en compte de main noire sur l'ensemble de l'année. Et la deuxième chose, c'est le maintien d'un free cash flow, d'un objectif de free cash flow positif, malgré un plan d'investissement ambitieux, et que je vous confirme également. Voilà pour ces commentaires. J'ai tenu un gros quart d'heure. Maintenant, je vous laisse la place pour vos questions.
Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, veuillez taper 01 sur votre clavier téléphonique. Merci. Nous avons une première question. Madame, monsieur, merci de vous présenter et de poser votre question. C'est à vous.
Allez-y.
Allô, Chloé Le Marie de Mainforce, oui, désolé, j'étais pas sûre,
oui,
c'était moi. Oui, alors là, j'aurais une première question sur la division aerospace. Donc vous évoquez une possible baisse de l'activité au deuxième semestre. Je voudrais savoir si vous aviez une idée de ce qui pourrait la causer. Est-ce que c'est une question donc, du déstockage que vous évoquez notamment chez Airbus, des attentes plus prudentes sur notamment le MRO? En fait, est-ce que vous avez un peu un peu plus de détails sur cette possible baisse?
Alors, tout d'abord, il faut bien entendre cette possible baisse en termes de volume et hors effet dollar. Hein. On aura toujours l'effet positif du dollar sur le T2. Alors, hors effet du dollar, vous aurez effectivement un effet purement conjoncturel, que je m'explique pas très très bien, qui doit être un déstockage chez nos principaux clients, avionneurs et en particulier Airbus. Il doit y avoir quelque part du nettoyage de stock, il y a dû avoir des précautions de prise sur un certain nombre d'éléments. Ça peut se retourner relativement vite, mais j'ai préféré, vous me connaissez, faire preuve de prudence et de vous dire que nous avons aujourd'hui un niveau d'appel en Europe qui est relativement faible. Ensuite, il y a un deuxième élément qui est le déménagement de Monadnock, donc une usine qui est située en Californie, à côté de Torrance City of Industry, où là, en fait, on déménage des machines progressivement, mais on a à peu près 2 semaines d'arrêt par machine, et donc forcément notre capacité de livraison se trouve affectée. Troisième élément concerne la distribution aux US, où là aussi on a une prise de commande de la distribution qui est relativement faible et une base de comparaison de Boeing qui est plus élevée sur le T2, qui fait l'ensemble conjugué, pèse un peu sur les volumes à livrer. Donc pour moi c'est du conjoncturel. Sur le reste de l'année, je demande d'avoir un peu plus d'éclairage, c'est assez difficile. Normalement, si on conjugue les besoins des constructeurs qui nous demandent aujourd'hui de passer sur une cadence 50 pour les monocouloirs, qui est pour moi quasiment décidé à l'horizon 2016, on devrait avoir en avance de phase, progressivement, un carnet qui va se retendre, et j'espère le plus rapidement possible.
D'accord, très bien, merci. Et juste pour revenir donc sur l'activité automobile, donc vous nous faites part d'une petite tension sur la production. Est-ce que vous pouvez un peu quantifier l'impact que ça a eu sur vos ventes ce trimestre par exemple et une petite indication des surcoûts que vous attendez?
Oui, alors nous avons eu, pour être clair, un engorgement très fort au traitement thermique sur ce qu'on appelle la visserie d'équipement, donc plutôt la visserie de gros diamètre. On a eu des surprises dans le mix produit, on a eu beaucoup de commandes sur des produits, notamment Volkswagen et PSA, sur des produits qui nécessitent du traitement thermique, alors que on pensait avoir plus de commandes sur de la matière traitée. Donc on a soit du traitement thermique avant transformation ou après transformation, et c'est pas les mêmes équipements. Et donc la création de ce coût d'étranglement a conduit chez nous des recours à la sous-traitance. Et bien entendu, quand on sous-traite à des coûts beaucoup plus élevés que la production interne. Et ensuite, comme on est en retard, on doit payer les transports. Alors, les transports exceptionnels seuls sur le premier trimestre, ça se chiffre à peu près à 1,2 million d'euros. Le coût de la sous-traitance, c'est pas loin d'être dans ce niveau-là aussi. Donc voilà, ça vous donne à peu près l'étendue, donc 2-3 millions d'euros de surcoût sur le trimestre qu'on n'attendait pas forcément. Alors qui gomme l'effet volume qu'aurait dû créer ce volume supplémentaire. Hein. Puisque vous avez vu que là, en termes de top line, c'est pas trop mal. Surtout qu'on aurait dû produire en fait plus. Donc, ensuite, derrière, on a des problèmes de déficience. Alors, je vous rassure, on continue malgré tout à progresser, à la fois en valeur relative et en valeur absolue, la rentabilité de la division automobile. Et nos objectifs seront partiellement atteints, mais pas en totalité.
D'accord, très bien, merci, c'est tout pour moi.
Une autre question ?
Tout à fait, nous avons une seconde question. Madame, monsieur, merci de poser votre question, c'est à vous. Monsieur Boivin-Champeau, votre micro est ouvert, c'est à vous de poser votre question, merci.
Allô ? Vous m'entendez ?
Oui, Antoine, allez-y.
Ah, pardon. C'est pour une technique apparemment. J'avais trois questions. D'abord, les cadences de moyens courriers Airbus. Je crois que la personne en charge du programme A320 chez Airbus a évoqué 60 par mois ce matin, voire plus. Est-ce que vous-même, en tant que fournisseur, vous êtes déjà informé de ce type de cadence ? Première question. La deuxième concerne Manoir avec 44 millions d'euros au trimestre, je crois. Est-ce que vous pourriez nous donner la croissance organique de Manoir seul ? Et ma troisième question concerne le LIP. Vous parlez d'un niveau de pression très critique. Est-ce que ça affecte les trois versions du LIP ou uniquement l'une des versions ? Et si oui, laquelle ? Merci.
Alors, tout d'abord sur les cadences moyens courriers, moi je vous l'ai dit, nous travaillons aujourd'hui, ce qui a été confirmé, c'est du 50. Et on travaille sur des études de faisabilité sur 63. Donc ce que nous avons compris, c'est qu'il y a une espèce de course qui est en train de se faire entre Boeing et Airbus pour pouvoir saisir des slots de livraison à plus court terme possible. Et donc pour moi, cette cadence-là, dans la durée de 60, elle n'est pas soutenable, même si elle peut se réaliser sur quelques mois, voire quelques trimestres. Donc c'est peut-être un effet d'opportunité. Alors nous, sur la partie fixation comme sur la partie composant, on n'aura pas trop de problèmes pour pouvoir assurer cette cadence. On doit bien sûr vérifier s'il n'y a pas certains produits qui bloquent en termes de capacité, mais on doit trouver les moyens de pouvoir monter relativement, non pas facilement, mais en tous les cas de pouvoir servir ses besoins. Et l'IGI n'a jamais été et ne sera jamais un élément de frein chez nos clients, en particulier Airbus ou Boeing, on a toujours pu servir correctement nos clients, tout au moins dans l'activité fixation. Manoir. Alors sur Manoir, on a des effets divergents, on a des montées en cadence qui sont liées aux programmes actuels. Et là, on est dans un rythme de croissance qui est compris entre 5 et 7%, et même davantage sur certains programmes. Et de l'autre côté, on a des segments qui sont en baisse, en particulier avec Airbus Hélicoptère, où on a eu dès 2014 des baisses significatives, notamment sur les programmes Super Puma et hélicoptères assez lourds, où là les baisses sur certains programmes sont de l'ordre de 40% en global avec Airbus Hélicoptère en baisse de 20% quand on compare 2014 par rapport à 2013. Et sur 2015, on voit encore un effet de traîne de cette baisse, qui est moins accentué, mais de l'ordre de 10%. Donc, vous voyez qu'il y a divers facteurs qui affectent Manoir, qui fait qu'on a une croissance un peu moindre. Mais c'est surtout du côté Creuset que se concentrent les 9% de croissance organique que nous avons eu dans cette activité.
Et Manoir au total est flat ou...
Manoir au total, c'est une légère croissance.
D'accord.
Ensuite, la pression que nous avons sur la mise au point des différents produits, elle est surtout sur le 1A. Sur le 1B, on est également sous pression. La version Comac étant, elle, moins critique, il nous a semblé. Voilà. Après, moi, je ne veux pas parler pour Safran. C'est à eux de vous apporter les informations nécessaires sur les développements de ces programmes-là. Parce qu'il ne faut pas confondre, je pense, les priorités que nous on nous donne qui dépendent également des essais. Bon, je peux vous dire que le rollout qui a été fait du premier A320 Neo a été fait avec l'ensemble des bords d'attaque produits par l'ICI Aerospace Structural Components, de même les lèvres d'entrée d'air des moteurs. Donc là aussi c'était un événement important pour le groupe, puisque nos pièces phares et visibles étaient bien présentes sur ce modèle-là.
Très bien, merci beaucoup.
Nous avons une autre question. Monsieur, madame, merci de vous identifier, de poser votre question, c'est à vous.
Oui, bonjour, c'est Christophe Ménard, vous m'entendez ?
Oui, bien sûr, allez-y Christophe.
Oui, bonsoir. Donc, quelques petites questions supplémentaires sur essentiellement l'aéro et un peu sur l'auto. Vous avez parlé d'une sorte de ralentissement de prise de commande sur le Q2. Vous avez un book-to-bill pour l'Europe à ce sujet? Est-ce que vous le donnez? Le deuxième point, c'était justement sur le LEAP. Si je comprends bien, il y a des changements de design qui continuent à s'opérer. À quel moment on va avoir un problème d'overlap entre les changements de design et le début de la production, c'est-à-dire à quel moment ça peut commencer véritablement à peser sur vos marges. Le troisième question, c'était Manoir. Est-ce que les difficultés, c'est plus de CAPEX ou c'était déjà pris en compte? Et le dernier point, c'était sur les marges en auto. Vous dites que ça sera moins bon que ce que vous aviez prévu pour l'année pleine. Du moins, personnellement, j'avais pas une amélioration énorme entre l'année dernière et cette année. Donc, est-ce qu'on parle de 50 points de base de variation ou on est littéralement dans 100 points de base?
Bien, je vais essayer d'abord de reprendre les questions dans l'ordre parce que il y en a quelques-unes qui me semblent un peu floues pour moi. Tout d'abord, le ralentissement l'aéro Europe, on ne le voit pas encore dans le book-to-bill, parce qu'en fait on a un book-to-bill aéro Europe qui est principalement destiné à Airbus, et Airbus, le book-to-bill, il est forcément quasiment de 1, puisque je dois livrer sur appel quasiment en flux tendu. Simplement, moi, je vous parle d'une évolution récente, sentie peut-être à partir de mi-mars et qui se prolonge aujourd'hui, où on voit des appels qui sont relativement mous. Donc, je préfère être tout petit peu prudent en disant bon, ça correspond pas au rythme de cadence. Bon, néanmoins, vous voyez que les livraisons chez Airbus sur le premier trimestre, c'est pas non plus euphorique. Donc, il nous manque quand même un peu de un peu de cadence avion. Bon, c'est un peu normal quand on prépare des nouvelles versions, quand il doit y avoir également des problèmes d'aménagement ou choses comme ça, mais c'est plus interne, je vais pas parler pour Airbus encore une fois. Mais en tous les cas, nous on sent une prise de commande qui est relativement molle et qui correspond pas tout à fait à la santé du secteur. Ensuite, vous avez parlé, et ça, il faudrait que vous précisiez votre question, Christophe, d'un overlap entre les anciens et les nouveaux programmes. Est-ce que vous pouvez repréciser et reformuler votre question?
Oui, je me suis mal exprimé. C'est le LEAP, si vous faites des modifications actuellement sur les pièces du LEAP, il va y avoir un moment où vous produisez un certain nombre de pièces. Ces pièces doivent être reprises pour intégrer un échangement. Du moins, il y a un moment où vous commencez la production série et un moment où vous devez aussi intégrer ces changements à la production série, et ça peut faire des surcoûts de votre côté. Là, si j'ai bien compris, vous intégrez, mais vous n'avez pas une production série encore très forte. Je voulais savoir s'il y avait si ces changements ne sont pas figés par exemple dans les
D'accord,
5 prochains mois.
Je comprends mieux. Alors, en fait, ce qui aujourd'hui nous pose problème, c'est que la phase d'industrialisation avec tous les outillages correspondants peut être mise au point à partir du moment où une définition définitive, et notamment la fixation des critères. On a des critères qualité et des critères également dimensionnels, et avec des opérations de retouche et de reprise en fin de flux. Et c'est là où il faut qu'on arrive à dimensionner correctement notre outil industriel, et lorsque la pièce n'est pas complètement figée, c'est là où on peut avoir quelques soucis. Donc on a un problème de timing qui n'est pas de notre fait, même si l'industrialisation reste ambitieuse. Ensuite, il y aura peu de surcoût, c'est-à-dire qu'on ne va pas créer chez nous des stocks d'encours ou de produits finis, de produits qui ne seront pas livrés aux clients, puisqu'on est encore dans une phase de proto. Donc aujourd'hui, on livre des produits qui seront acceptés, ou en tout cas si ils sont conformes à la définition qui est aujourd'hui en place, qui seront livrés aux clients, même s'ils peuvent encore évoluer par la suite. Mais vous comprenez bien que fixer une industrialisation ambitieuse alors même que les produits ne sont pas figés, c'est pas simple. Bon, c'est notre objectif, que ce soit le client comme nous-mêmes, que de définir ces produits, les figer, mais ce sont des produits qui sont très critiques, qui conditionnent une partie de la performance de l'appareil et du moteur, pardon, et donc c'est pas simple. Voilà. Après, le sujet manoir, alors les capex manoir, le niveau de l'équipement industriel moyen de manoir, ce n'est pas une surprise. On vous l'a toujours dit, je ne vous l'ai jamais caché. Et aujourd'hui, simplement, ce qu'on constate, c'est, alors qu'on essaye de monter un peu en cadence sur certains éléments, on a des engins lourds qui présentent un taux de panne significatif, puisqu'on parle à peu près de 20% sur le taux de panne des engins lourds de Boulogne, par exemple. Je vous rappelle que dès qu'on a pris possession de manoir, on a immédiatement commandé une nouvelle presse après les études techniques, etc. Et que cette presse, elle va arriver simplement au mois d'octobre ou novembre, et elle va être qualifiée pour livrer en 2016. Donc vous voyez qu'il y a une inertie importante. Ce qu'on a demandé aux équipes, c'est qu'elles accélèrent le plan de maintenance lourd, c'est-à-dire qu'on ait un vrai plan de maintenance qui prolonge la durée de vie des équipements, et pas uniquement des restes rustines, et que ça suppose, là on a un tout petit peu de réflexion technique, on a également la mise aux normes des équipements, mais là encore il n'y a pas de surprise, c'est conforme. Pourquoi je vous en parle? C'est parce que nous avons un niveau de panne qui est quand même significatif et qui présente un certain handicap dans l'endressement à court terme. Je vous rappelle qu'on mène une stratégie dans la durée, à long terme, que manoir on a pris pour transformer et l'amener au next level, mais dans la durée. Hein. Donc on ne va pas faire de miracle à très court terme. Enfin, les perspectives auto, je vous rappelle que dans l'automobile. Nous avons pour ambition, dans la durée, au terme du plan, d'amener la division automobile à 7% d'EBIT. Nous avons dit que l'exercice 2015 devrait marquer une étape importante et significative dans l'endettement des marges, non pas pour arriver à 7%, mais quelque chose d'intermédiaire, et donc l'objectif étant plutôt de 5%. Maintenant, on est dit, soyez prudents, et on a bien fait, et certains ont été prudents, comme vous, et vous avez pris un niveau inférieur à 5%, et vous avez eu raison. Donc, l'an dernier, nous étions aux alentours de 3,4%. Et cette année, comme je vous l'ai confirmé, on va améliorer la situation. Donc, on ne devrait pas être loin de vos prévisions et il n'y aurait aucune raison de les modifier si vous l'avez déjà corrigé de vous-même avec une marge de prudence. Mais je sais que certains ont été un peu plus ambitieux que vous. Voilà.
Merci beaucoup.
Nous avons une dernière question. Madame, monsieur, merci de poser votre question. C'est à vous.
Oui, bonsoir. Jean-François Grandjean, Prodo Securities. J'ai une première question concernant un manoir. 44 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le premier trimestre. Sur l'ensemble de l'année, est-ce qu'on peut considérer qu'on reste sur une légère croissance par rapport à un pro forma? J'avais en tête 160 millions d'euros. Autrement dit, comment on peut calibrer la contribution de Manoir sur l'ensemble de l'exercice? Et question qui en parle toujours pour Manoir, compte tenu des difficultés opérationnelles que vous avez évoquées, est-ce qu'on doit considérer qu'en termes de contribution, qu'en termes de marge, on pourrait être en deçà de la contribution en valeur relative de la contribution des 7 mois de l'année précédente? C'est ma première question.
Alors, sur Manoir, effectivement, on a une prévision qui est globalement stable. Je pense que c'est raisonnable de partir là-dessus avec un pro forma à 160. Peut-être juste simplement attention au fait que nous avons consolidé sur le Q2, non pas 6 mois d'activité, mais on a rattrapé le chiffre d'affaires puisqu'on a acheté le 4 juin. Hein, et on l'a consolidé sur l'ensemble, pas sur le Q2, mais sur le S2. Le S2 ouais. 2014 comporte 7 mois d'activité hein, et non pas 6.
Hein. Tout à fait.
Là, c'est un peu particulier, mais c'est dû au purchase account. Donc faites attention dans cet élément de comparaison. Ensuite, Jean-François, est-ce que vous pouvez me rappeler votre
oui,
question
suivante? Oui, c'est en termes de profitabilité, en fait, par rapport, toujours pour Manoir, compte tenu des difficultés opérationnelles, dans l'intégration et de montée en charge, est-ce qu'on doit là aussi être plus prudent en termes de contribution marge par rapport à la marge qui avait été prise en compte au cours pour les 7 mois de l'année précédente?
Alors, par rapport aux 7 mois de l'année précédente, il n'y aura pas de dégradation.
D'accord.
La contribution de Manoir. Il y aura toutes les pannes machines pèsent, ça c'est clair. Mais de l'autre côté, il y a des éléments d'amélioration. Je pense qu'on devrait arriver à compenser hein, ces éléments-là, de sorte qu'on puisse avoir une contribution homogène et j'espère en légère amélioration.
D'accord. J'ai une deuxième question concernant sur l'aéronautique avec l'A350. Donc on avait vu qu'en 2014, il y avait eu un trou d'air bon, justifié, expliqué, en termes d'activité, surtout en termes de profitabilité. Aujourd'hui, donc vous relivrez pour l'A350. Est-ce qu'on peut avoir un ordre de grandeur de ce que cela peut représenter en termes d'unité pour l'ensemble de l'année, en termes de contribution au chiffre d'affaires, en termes de rythme de montée en puissance?
Oui, alors effectivement, vous avez raison, hein, spécifier ce programme-là, il est bien au rendez-vous, c'est-à-dire qu'on a ce programme-là qui contribue. C'est un programme qui est un peu en deux temps, parce que vous avez une phase où, on va dire, il y en a un A350 en production légèrement dégradée, et puis après, il y a un A350 de série. Et l'A350 de série, il va commencer à tirer fortement. Mais ce sera un effet qui va vraiment être visible sur 2016, notamment sur des segments comme des écrous titane. Et là, je parle à 350 pour le segment fixation, hein, pour que ça soit clair pour tout le monde. Après, sur la partie composants de structure, là aussi, on va voir également des composants qui vont être progressivement livrés avec des cadences un peu plus élevées, sachant qu'aujourd'hui on est toujours dans un régime un petit peu dégradé. On a certains composants qui ne sont pas fabriqués dans les gammes de production finales et pas forcément par nous également. Hein. Donc on va recapter du marché. Et par ailleurs, donc vous savez qu'il y a également l'allocation du contrat Airbus hein, qui est en cours avec échéance décembre 2015. Et là aussi, on espère avoir un effet fort et significatif, et notamment lié au programme A350 à partir de 2016. Donc pour moi, compte tenu de l'inertie inhérente à ce genre de programme et d'activité, 350, il y aura un effet positif. D'ailleurs, vous le voyez dans la qualité du segment Fasteners Europe, hein, qui est à plus 6. Alors que sur les Legacy, c'est là où on est un tout petit peu déçu. Et je parlais tout à l'heure avec notamment le segment monocouloir qui n'a aucune raison de se stabiliser. Bon, et puis enfin, il ne faut pas masquer non plus que le 330, vous avez tous lu, que le 330, on était à 10, on est passé à 9, ça c'est déjà effectif, on va passer à 6. Là également, ce programme-là va avoir un effet. Alors sur le 330, il y a des fasteners, puis il y a beaucoup de composants, il y a des clits, donc les composants de structure, hein. Il y a également des produits qui sont fabriqués à Argenton de manière assez significative, et on a également quelques produits chez Manoir. Donc c'est pas un effet qu'il faut négliger, le 330 qui va sur, je pense, 2015, et qui explique peut-être une partie également de la baisse conjoncturelle dont j'ai parlé tout à l'heure, avoir un impact et qui va quelque peu effacer cette dynamique du 350.
D'accord. Dernière question en ce qui me concerne, sur l'aspect marge, donc vous confirmez que pour la partie fixation uniquement, on reste sur des niveaux de marge élevés, proches ou voisins de ceux de l'année passée, voire en amélioration. Et deuxième question, par contre, pour l'ensemble du groupe, quand vous parlez d'amélioration des performances opérationnelles en valeur absolue, on doit comprendre que pour l'ensemble du groupe, on intègre une dégradation de marge liée à l'intégration de Manoir et donc de l'effet périmètre.
Alors, absolument. Vous avez parfaitement raison hein, sur l'objectif final, c'est bien comme ça qu'il faut le lire et l'interpréter. Après je reviens sur la lecture que vous pouvez en faire, de prévoir une amélioration de la marge sur l'activité fixation, alors même qu'on est déjà dans des marges très élevées, ce ne serait pas raisonnable. Je pense que là nous avons une politique d'excellence, bien entendu. On a un niveau de marge qui est très très bon, mais le marginal à aller chercher, il ne peut être que basé sur le court terme. Or, je le répète encore une fois, nous avons une stratégie de long terme, et nous préférons, plutôt que d'aller gagner des dixièmes de points de marge qui nous mettraient en défaut dans la durée, on préfère nous investir. Et continuer à progresser et continuer à travailler dans la durée. Alors vous savez que on a décidé de construire une nouvelle usine à Villefranche-de-Rouergue par exemple, donc les travaux sont en cours, etc. Pendant qu'on s'occupe de ça, dans l'ancienne usine, c'est pas là où on va mettre des investissements qui seront perdus au déménagement. Hein, donc là aussi, on travaille dans la durée. City of Industry, le déménagement va également affecter une partie de notre rentabilité. On va continuer à progresser par ailleurs grâce à notre programme d'amélioration continue, à des investissements, à la robotisation, l'automatisation des contrôles, etc., etc., tout ce qui est en cours.
Parfait. Ok, merci beaucoup.
Nous avons une dernière question. Monsieur, merci de poser votre question.
Oui, bonjour, Christophe 40, Société Générale. Bonsoir, je vais essayer d'être rapide parce que ça a déjà duré un bon moment. Vous avez répondu de manière très claire à toutes les questions, je vous en remercie. Je voudrais juste avoir une précision sur le mix de l'automobile. Je voudrais savoir ce qui, à poids des coulées d'étranglement que vous avez mentionné sur la partie visserie. J'aurais voulu reposer un peu les questions sur la dynamique top line et nous donner un petit peu comment vous voyez les prochains trimestres, est-ce qu'il y a un effet mix qui va jouer, et en particulier sur les constructeurs français. Ça sera ma première question. voulez que je vous les pose toutes ou...
Allez-y, ouais, je vous les offre, pas ça.
Ok, la deuxième question serait juste pour nous donner un peu une dynamique sur le free cash flow, avec les phasages des investissements que vous avez prévus, pour nous donner un petit peu la tendance S1, S2, même si on comprend bien que vous ne renvoyez pas votre guidance, mais c'est peut-être pour un petit peu anticiper la mécanique. Et troisième élément, et j'en terminerai par là, c'est sur la partie médicale. Je voudrais savoir un petit peu comment vous voyez les prochains trimestres. Bon, vous aviez évoqué une amélioration de la rentabilité au cours de l'exercice en fonction d'une reprise. Là, vous évoquez toujours un petit peu de mise en place qui sont un petit peu délicates, mais vous avez un effet nouveau produit qui va jouer. Donc, est-ce que là, même si les chiffres vont rester modérés par rapport à l'ensemble du groupe, on est dans ce que vous aviez anticipé ou même plutôt des bonnes surprises, parce que je n'avais pas en tête forcément une mécanique nouveau produit aussi forte. Donc, est-ce que vous pouvez nous préciser ces éléments-là? Merci.
Ok, alors, tout d'abord, dans l'auto, la dynamique top line, elle est bien présente. Elle est présente principalement dans le segment des composants mécaniques de sécurité, principalement destinés sur les domaines de freinage. On a des fortes demandes. Comme je vous l'ai dit, on a réussi à nouer des partenariats à long terme avec certains grands clients. Et là, ça va aller assez vite. Et on a toujours une montée en puissance de ce segment-là qui est très dynamique sur le terrain, qui va continuer. Les nouvelles des constructeurs français sont positives, puisqu'ils diminuent le nombre de jours ouvrés et de jours fériés, pardon. Ils ont même annoncé qu'ils supprimeraient des semaines de vacances entières. Vous avez vu les annonces de PSA, prévoit d'augmenter sa production, et je vous rappelle que nous, on est surtout basé sur la production et pas forcément sur les ventes. Donc il y avait un déstockage sur la production sur le T1, et il y aura plutôt une augmentation de la production sur le T2 plus dynamique qu'au T1. Nous, tout notre défi, ça va être de pouvoir livrer correctement et dans des tensions logistiques, et on doit chercher des solutions à nos coûts d'étranglement, mais certainement on sera freiné en partie. On ne va pas forcément bénéficier de toute la dynamique des constructeurs dans les mois à venir, mais on va essayer de les servir au mieux. Sur la partie clippée, c'est un peu plus calme, on va dire, mais là on n'a pas de problème de gros étranglement, on peut augmenter assez aisément notre capacité de production, donc on devrait pouvoir suivre. Sur le sujet des free cash flow et du cadencement des capex, on a un bon rythme d'entrée des capex. Donc, de ce côté-là, pas d'inquiétude. Au passage, je vous rappelle qu'on devrait bénéficier largement des dispositifs de la loi Macron sur le complément d'amortissement de 40%. Alors, c'est un objectif, c'est quand même, pour nous, industriels, un instrument assez puissant. Je vous rappelle que le gain, il va s'étaler sur 5 ans, hein, et que ça constitue en fait une aide de l'État, de l'ordre, une aide supplémentaire hein, par rapport aux amortissements actuels dérogatoires qu'on peut avoir, mais c'est une aide cumulée sur les 5 ans, c'est 15% de l'investissement qui est en quelque sorte payé par les économies d'impôts. Donc c'est pas un dispositif qui est anodin pour des industriels comme nous. Et alors c'est clair que nous ça tombe bien parce que ça correspond très très exactement à une période d'investissement fort et la plupart sont bien entendu bénéficiaires du dispositif. Donc on va en profiter à plein. Alors moi je vous ai parlé d'investissement décaissé sur la période d'une centaine de millions d'euros. Pour l'instant on est dans le rythme et un rythme plutôt élevé de ce niveau de capex, qui ne remet en rien en cause le rythme de free cash flow qui restera positif. Après, pour vous dire si le cash flow sera de 20, 25, 35, voilà, qui est à peu près la fourchette que vous pouvez avoir en estimation, ça va dépendre du rythme d'entrée des investissements et on peut décaler les investissements pour des questions de délai, hein, entre la fin de l'année et le début de l'année suivante, c'est assez difficile à phaser. Donc c'est toujours une notion délicate à manier le free cash flow, mais sachez que pour nous, c'est un point de question, un point de vigilance, et on surveille ça. Je peux vous dire que sur la première partie de l'année, la maîtrise du BFR, en particulier des stocks, est bien présente. Donc on a encore des points et des jours de chiffre d'affaires à gagner sur les stocks. Ça fait partie de nos objectifs pour l'exercice et ça servira également à assurer un free cash flow positif. Sur le médical, j'attends moi des prochains trimestres meilleurs que sur le terrain. Je vous ai dit, je souhaite renouer avec les taux de croissance. On a effectivement les nouveaux produits dont vous parliez, qui sont longs à se mettre en puissance parce qu'avant de livrer en quantité significative, on a toujours des commandes de qualification, de tests, de contrôles, etc., etc. Et l'inertie dans le domaine médical est longue. On a des nouveaux produits en lancement avec Striker qu'on doit réussir. On a des contraintes de qualité qui sont également assez strictes et draconiennes. Et c'est là où la montée en puissance de nouveaux équipements doit nous aider. Aujourd'hui, je pense qu'on a résolu une partie de nos sujets et on devrait pouvoir avoir la capacité suffisante pour servir le carnet. Ce n'est pas une question de carnet, c'est plutôt une question de production, et particulièrement à Caen. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu correctement à vos questions, Christophe. J'ai essayé en tout cas d'être succinct.
Non, merci beaucoup, c'est parfait.
Nous n'avons pas d'autres questions.
Bien, bah écoutez, je remercie à tous pour votre attention. Je vous donne maintenant rendez-vous au mois de juillet pour les résultats semestriels. Et avant ça, nous avons le rendez-vous du Bourget. Je vous rappelle que nous avons, j'espère que vous les avez notés dans votre agenda, un rendez-vous qui est fixé, je recherche la date en même temps que je vous parle, pour le 19 juillet, qui est un vendredi. Voilà, et je verrai certains d'entre vous qui viendront nous rendre visite avec vos clients investisseurs pendant la semaine. Voilà, écoutez, je suis bien entendu à votre disposition. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.
Mesdames et messieurs, la conférence est maintenant terminée. Merci à tous de votre participation. Vous pouvez dès à présent vous déconnecter.